Isabelle Nadeau, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Donc, Isabelle, si tu pouvais te présenter en quelques mots.
Je suis agronome. J'ai fait ma maîtrise dans la culture du ginseng en milieu forestier sur des essais d'amendements organiques et de chaulage en forêt. C'est là que j'ai commencé dans le ginseng. Je crois que j'ai fini en 1999 cette maîtrise-là. Et c'est ça, depuis ce temps-là, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la culture du ginseng en milieu forestier. J'ai travaillé d'abord pour le CLD de l'érable à Plessisville. Et puis, j'ai été à mon compte avec ginseng boréal pendant plusieurs années. J'ai écrit un guide sur la culture du ginseng en milieu forestier. J'ai donné des dizaines de cours, de formations. J'ai donné des conférences. J'ai été jusqu'à Hong Kong donner des conférences. Et puis, c'est ça. Après ça, j'ai ouvert aussi vers la culture des plantes médicinales en forêt au cours de ce cheminement-là. Suite à ça, après ça, j'ai fait un petit passage de quelques années chez Horticulture Indigo où je me suis occupée de semences, de plantes indigènes, de récoltes et tout ça. Et maintenant, je suis rendue chez Bioptère, un centre de recherche, où est-ce que je suis officiellement dans la cellule horticole, mais je travaille aussi beaucoup avec la cellule des PFNL. C'est ça. J'ai des projets sur la culture des plantes dans le but de faire des huiles essentielles. J'ai des projets c'est ça, sur différentes plantes il y a des choses qui s'en viennent aussi. Je travaille aussi sur la valorisation des résidus aussi de industriels en agriculture. Fait que je travaille à différents niveaux maintenant.
Donc, moi, je t'ai invité principalement pour qu'on parle ginseng. Puis ça, c'est une histoire absolument incroyable, le ginseng canadien, la ruée vers le ginseng qui est une partie de notre histoire qui est peu connue. Est-ce que, si tu peux nous parler un peu de le ginseng qui est canadien et pourquoi il est devenu une plante menacée et vulnérable?
Je fouille loin dans ma mémoire, là, mais je me souviens plus des dates exactes par cœur, mais au début de la colonie, quand les premiers colons sont arrivés, il y avait des missionnaires jésuites qui étaient avec les colonies. Et entre les missionnaires jésuites, il y avait des colonies un peu partout dans le monde de jésuites. Et chaque jésuite écrivait un genre de journal où est-ce que il colligeait l'information qu'il découvrait. Et ça circulait d'une colonie à l'autre comme pour partager l'information. Et il y a un missionnaire qui était en Chine, qui avait été soigné avec du ginseng, qui avait vu l'effet du ginseng. Et aussi, à ce moment-là, l'empereur payait les racines de ginseng avec l'équivalent en or du poids des racines. Alors, ça valait déjà très cher à l'époque. Et il avait noté que les forêts où est-ce que ça poussait, c'est en Tartarie, quelque chose comme ça, en Chine, ressemblaient beaucoup aux descriptions qu'il y avait eues de la Nouvelle-France. Alors, c'est arrivé chez un missionnaire dans le coin d'Oka qui a regardé les dessins, qui a montré ça aux Amérindiens et qui en a trouvé, genre, tout proche de chez lui. Alors, au début, ils ont essayé de garder ça un peu secret et juste d'acheter des racines de ginseng. Sauf que le chat a fini par sortir du sac. Surtout que c'était réputé pour aider à la libido masculine. Alors, ça faisait un peu louche qu'un missionnaire jésuite achète autant de racines de ginseng. Il y a une compagnie qui s'est créée à ce moment-là, la Compagnie des Indes, qui avait pour principale mission d'exporter du ginseng vers la Chine. Il y a vraiment des bateaux qui sont partis remplis de racines de ginseng. Les colons, il y en a qui abandonnaient leur terre pour aller courir les bois pour aller cueillir du ginseng parce que c'était plus payant. À ce moment-là, dans les colonies de la Nouvelle-France, le ginseng était en seconde place dans les importations après le commerce des pots de castor. Et ben c'est ça. Le ginseng, à ce moment-là, il en avait pas mal, mais on se retrouve à la limite nord de son aire de distribution. En fait, tu parles de ginseng canadien, mais on en retrouvait à ce moment-là à peu près juste en Ontario et au Québec. Dans les prairies, vu qu'il n'y a pas de forêt, ben ça arrête là. Et puis c'est ça. Donc les populations étaient en bonne santé, mais le ginseng, c'est une plante qui se reproduit très lentement, qui est très peu efficace dans son mode de reproduction aussi, ce qui fait que une cueillette aussi intensive a épuisé les stocks. Ça n'a pas duré des années à cause de ça. Ça s'est épuisé assez vite. Et puis là, les coureurs des bois se sont rendus compte qu'il y en avait aussi dans l'est des États-Unis. Alors, ça s'est mis à descendre au sud. Et là, il y a toute une histoire aussi avec les exportations de ginseng. Il y aurait même Daniel Boone qui aurait exporté des cargaisons, des bateaux complets de ginseng en Chine. Et en tout cas, il y a toute une histoire qui continue là. Mais cette cueillette-là, très intensive, a fait qu'on a vraiment massacré les populations. En plus de ça, le ginseng pousse dans les forêts riches du Québec. Les forêts qui sont principalement situées dans la plaine du Saint-Laurent, mais c'est aussi les zones qui ont été les plus déforestées pour la culture, mais aussi pour l'urbanisation. Fait qu'en plus de la cueillette intensive, on a beaucoup détruit son habitat, et on continue de le faire. Fait que tout ça réuni a fait que il reste très peu de population de ginseng. Vu que ça vaut encore très cher, au Québec, c'est un peu moins connu. En Ontario, ça fait plus longtemps, ça fait un bout qu'il y a de la culture de ginseng. Fait que la pression sur les populations est encore plus forte. Il y a encore un marché noir qui est autour de ça, qui vient mettre une pression sur les populations naturelles. Fait que c'est ça, j'ai travaillé. Il y a des lois, il y a la loi CITES qui protégeait... qui interdit l'exportation de ginseng sauvage. C'est une loi qui a été... ça se peut que je me trompe dans les termes juridiques, là, mais ça a été... c'est canadien, c'est plein de pays qui ont signé je pense que c'est une convention internationale, et le ginseng a été mis sous cette protection-là. Mais combiné à ça, il y a aussi au niveau provincial au Québec, le ginseng est protégé, puis je crois qu'il y a quelque chose aussi en Ontario. Mais ça a été plus compliqué de le protéger. Mais au Québec, on n'a pas le droit de toucher un plant de ginseng à ses feuilles, à ses graines, aux plants. C'est très, très protégé pour essayer de sauver le peu qui reste. Et en plus de ça, il y a une pression assez intense de la part des chevreuils, donc qui vient aussi rajouter là, là-dessus.
Mm-hmm. Puis, d'après toi, cette loi des espèces menacées qui protège le ginseng, de ne même pas y toucher, est-ce que ça bloque pas, par exemple, sa reproduction? Le fait de pouvoir la multiplier?
En fait, on a le droit de multiplier le ginseng, mais pas de toucher aux populations sauvages. C'est pas évident de trancher. Puis, malheureusement, quand on tranche, il faut aussi penser... il y a plein de gens bien intentionnés. Il s'agit qu'il y en ait un très faible pourcentage de mal intentionnés qui vient tout briser le travail des autres. Fait que, malheureusement, c'est ce qu'il a fallu faire pour protéger le ginseng, parce que du marché noir, il y en avait. Et puis, avec CITES, on pouvait juste empêcher l'exportation, mais tout ce qui se transigeait à l'intérieur, mettons qu'on savait que quelqu'un allait piller des populations sauvages, on pouvait absolument rien faire pour l'arrêter. Fait que la loi provinciale est venue pour essayer d'arrêter ça. Il n'y a jamais rien de parfait, mais je t'avoue que j'ai fait partie des comités là, qui ont été consultés. C'est pour moi qui ai décidé, là, mais j'ai été à Ottawa, on a travaillé, j'ai travaillé, tu sais, on a donné notre opinion. Le but du provincial n'était pas d'empêcher la culture en forêt. Fait que ça a été d'essayer de trouver une façon de protéger les populations sauvages sans empêcher la culture en forêt, mais d'arrêter ceux qui faisaient du braconnage. C'est vraiment simplement ça. Je suis d'accord qu'il n'y a rien de parfait. Malheureusement, c'est souvent les gens qui vont aller récolter des semences dans une population sauvage, ben la majorité des gens, du temps, c'est des gens qui connaissent pas ça. Ou genre, à un moment donné, on avait vu, c'était carrément annoncé, quelqu'un qui était allé ramasser toutes les graines dans une population sauvage puis qui vendait ça. Mais c'est parce que cette population-là se reproduit pas cette année-là. Fait que, tu sais, quand c'est fait, puis c'est fait aussi une gestion de la reproduction par des biologistes dans les populations sauvages, mais c'est fait de façon très contrôlée avec un suivi et ainsi de suite. Mais tu sais, je pense pas que c'est une bonne idée de laisser monsieur, madame, tout le monde aller jouer dans les populations sauvages si on veut garder qu'est-ce qu'on est.
Non, peut-être, probablement pas, mais on peut en faire l'éducation. Tu sais, aux États-Unis, il y a l'organisation United Plant Savers qui fait de la science citoyenne. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde éduqué sur les plantes de sous-bois, comment les reproduire, leur écologie, etc. et qui font un travail de multiplication de ces plantes en danger.
Ouais, mais regarde, ça c'est quelque chose qu'on pourrait probablement faire avec l'ail des bois, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font avec le projet Semaille. Mais le ginseng, là, des gousses d'ail des bois, il en reste des millions. On a réagi avant qu'ils soient vraiment en situation catastrophique. Des populations de ginseng, je ne sais pas c'est quoi le dernier décompte au niveau des populations sauvages, mais on est autour de 15 000 plants. C'est vraiment catastrophique, là. Ça va pas bien, là. Fait que je pense pas qu'on peut se permettre cette marge d'erreur-là pour le ginseng. La situation est beaucoup plus catastrophique. Quand on regarde aux États-Unis, la cueillette de ginseng dans plusieurs États est permise encore parce que les populations, eux, se reproduisent beaucoup plus vite parce qu'ils ont des saisons de croissance beaucoup plus longues vu qu'il fait plus chaud et ça va vraiment mieux. Donc, dans un contexte comme ça, on peut se permettre ça. Dans un contexte comme ce qu'on a au Québec, je ne crois pas qu'on peut se permettre ça, non.
Tu peux nous parler un peu de l'écologie du ginseng et ses phases de développement. Qu'est-ce qui en fait une plante aussi fragile?
C'est une plante de forêt. En partant, les plantes forestières, bien, un peu comme les arbres, là, je veux dire, ça pousse pas vite. C'est une plante qui pousse à l'ombre avec très peu de lumière. Le ginseng, quand tu sors au printemps, tout ce qui va sortir comme feuillage pendant la saison est dans son bourgeon. Fait que au moment où ça sort, ben après ça, s'il est brouté, s'il est cassé, si mettons un quatre roues circule dans la ou un tracteur, peu importe, circule là puis qui casse le feuillage, ben c'est fini. Il n'y a plus rien qui va pousser pendant la saison. Fait que c'est vraiment pas une plante efficace. Il va prendre, avant d'arriver en fleurs, dans des produire des fruits dans des bonnes conditions, ça va prendre facilement 5-6 ans. Puis dans des conditions plus difficiles, ça peut aller jusqu'à 10-12 ans. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas une plante qui est très agressive. Les graines sont grosses, sont beaucoup mangées par les écureuils. Tu sais, il y a des graines que les animaux vont manger le fruit, puis dans leurs excréments, ils vont disséminer les graines un peu partout. La graine de ginseng, les écureuils, ils l'ouvrent et ils la mangent. Fait que ça réduit cette possibilité de reproduction. Mm-hmm. En plus de ça, la graine de ginseng a besoin d'être stratifiée pendant un an et demi avant de pouvoir pousser. Mais dans ces un an et demi-là, il faut qu'elle se retrouve dans des conditions où il y a un certain taux d'humidité qui lui permet de compléter son cycle, qui va permettre, en fait, c'est quand la graine est produite sur le plant, l'embryon à l'intérieur de la graine n'est pas mature, il n'est pas assez développé pour pouvoir donner un plant immédiatement. Fait que c'est les différentes étapes de la stratification qui correspondent, en fait, dans la nature. La graine tombe au sol à l'automne. Elle va subir le froid de l'hiver, la chaleur de l'été et le froid de l'hiver suivant. Et là, elle va pouvoir germer. Mais pendant tout ce cycle-là, il faut pas qu'elle se fasse manger. Il faut qu'elle soit dans des conditions qui sont humides, mais pas trop mouillées. Fait que, tu sais, s'il y a une sécheresse, des choses comme ça, ça risque de complètement détruire les graines. Fait que la reproduction comme ça se fait pas. Et la racine, bon, on dit qu'il y a un rhizome en surface, mais la reproduction du ginseng par rhizome, à part de rares exceptions, ne se fait pas. Fait que si le rhizome, la racine est brisée, en général, elle va pourrir, elle va mourir. Fait que c'est pas une plante très efficace.
Puis, aujourd'hui, c'est quand même légal d'en faire la culture. On en a parlé. On a parlé de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage, CITES. On a parlé aussi des lois québécoises qui interdisent la vente entre les provinces, je pense, mais l'importation et l'exportation est légal. Sous quelles conditions est-ce que c'est légal d'en faire la culture et le commerce des différentes parties de la plante?
Là, ce que tu dis entre les provinces, il y a peut-être eu un changement sur lequel je ne suis pas au courant. Est-ce qu'il y a eu un changement récent dans la loi provinciale?
Je vais vérifier, là, mais...
Parce que, à ma connaissance, la loi provinciale, ce qu'elle dit, c'est que, on n'a pas le droit de toucher aux populations naturelles ou sauvages de ginseng. Par contre, si on est capable de démontrer que notre ginseng a été cultivé dans la forêt, pour le ginseng de champ, c'est très facile de démontrer, là. Mais pour le ginseng forestier, si on est capable de montrer notre démarche, d'avoir comme un registre de l'achat de semences, un cahier, mettons, avec les photos de notre culture, des étapes, peu importe, qu'on monte un suivi de tout ça, et je me souviens plus à combien on a établi le nombre, mais je crois que c'est 100 ou 75. Si on est capable d'avoir 100 à 75, il faudrait vérifier le nombre exact, racines qui ont le même âge, parce qu'on est capable de calculer l'âge d'une racine en calculant les cicatrices au sommet de la racine, sur le rhizome, justement. Si on est capable de démontrer ça, ben en fait, c'est que les chances qu'on ait récolté tout ça en nature sont à peu près nulles. Alors là, à ce moment-là, on est capable de démontrer que c'est du ginseng cultivé en forêt. On peut avoir notre permis de spèce, puis on peut le vendre où on veut.
Mm-hmm. Puis, elles proviennent d'où, donc, ces graines et ces semences? On en fait la culture, puis on en fait la culture de différentes manières, non? En champ, semi-naturel et en forêt. C'est quoi la différence entre les trois?
La culture en champ, c'est que on a voulu ramener le ginseng en champ pour le cultiver de façon intensive dans le réflexe d'agriculture intensive. Alors, on amène le ginseng en champ sous des ombrières parce que le ginseng ne peut pas vivre au soleil. Il a besoin de 65 à 80% d'ombre pour survivre, en fait. Sinon, les feuilles brûlent carrément. Donc, on va mettre des ombrières au-dessus. Et puis, bon, comme le ginseng est très, très sensible aux maladies fongiques et au surplus d'eau, ça va être dans des sols très sableux, sur des billons surmontés. Il y a toute des techniques là, de production qui vont demander aussi beaucoup, beaucoup de pesticides. À partir de la deuxième année, c'est n'est pas rare qu'on épand des fongicides sur les plantations de ginseng à toutes les semaines ou aux deux semaines. Ce qui est un peu paradoxal vu qu'on c'est une plante médicinale qu'on cultive. Donc, c'est ça. La culture en champ va nous permettre de produire les racines en 3 à 4 ans. Ça va faire des racines qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus dodues. Mais sur le marché du ginseng, ces racines-là valent vraiment beaucoup moins cher. Pour les Asiatiques, ils veulent vraiment avoir une racine qui a l'aspect d'une racine sauvage et qui est âgée. Plus qu'une racine est âgée, plus qu'elle va valoir cher. Fait que ces racines-là, c'est comme un peu le McDo du ginseng. J'exagère un peu.
Juste pour donner une image d'une racine sauvage, c'est parce que la croissance est plus lente, donc entre les œillets, il y a comme moins de distance, puis ça donne des formes étriquées, tu sais, pour que ça passe entre les racines.
En fait, la racine va avoir à peu près la grosseur d'une carotte, là, tu sais, puis même un peu plus petite. Ça vient jamais, même une racine très âgée, ça vient jamais très gros. En fait, c'est qu'à partir d'un certain âge, elle atteint comme le maximum de sa grosseur, et c'est son rhizome qui va s'allonger. C'est qu'à chaque année, elle fait un bourgeon. Et c'est ce bourgeon-là qui va donner naissance, parce qu'elle perd toute sa partie aérienne à chaque automne. Fait que elle va faire son feuillage la première année, elle va former un bourgeon pour l'année d'après dans la terre au collet de la racine, et à l'automne, la partie aérienne va mourir. Au printemps suivant, c'est le bourgeon qui va donner un nouveau plant. Et ainsi de suite à chaque année. Ce qui fait qu'elle pousse toujours sur le dessus des anciennes cicatrices d'une année à l'autre, et l'accumulation de cicatrices d'une année à l'autre va faire que le rhizome va s'allonger, et c'est aussi avec ça qu'on est capable de calculer l'âge d'une racine. On compte les cicatrices qu'il y a au collet de la racine. Et une racine qui pousse en champ dans du sable, elle va beaucoup plus plonger, elle va venir plus grosse, tu sais, comme tout est optimal. Souvent aussi, pour maximiser les rendements en champ, ils vont aller au plus qu'elle peut supporter, fait qu'ils vont souvent avoir des ombrières qui ont 65% d'ombre seulement. Fait que la racine va pousser beaucoup plus vite dans ces conditions-là, va venir plus grosse, mais c'est pas une racine qui est aussi recherchée des consommateurs. Mm-hmm. En fait, c'est une racine qui va être comme la consommation de masse, alors que les racines forestières vont être le haut de gamme du ginseng pour les consommateurs. Je sais pas si je réponds à ta question.
Ouais, absolument. Puis il y a aussi la forme, tu sais, dans le sens où les Chinois ont comme des certaines attentes, surtout avec le ginseng, comme quoi il faudrait que ça ait la forme d'un petit bonhomme. Là, j'ai déjà entendu ça aussi.
C'est sûr qu'à l'origine, il y a des centaines, et je pense même des milliers, peut-être pas des milliers, mais ça fait vraiment longtemps. Ils sont partis de la doctrine des signatures, qui était à l'époque, ça fait longtemps, hein, c'était pas développé la médecine et toutes ces affaires-là. Ils croyaient que la forme d'une plante nous indiquait l'organe qu'elle pouvait traiter. Ce qui fait qu'une plante avec les feuilles en forme de cœur traiterait le cœur, et ainsi de suite. Bon, pour le ginseng, la légende un peu poétisée dit que c'était un vieil homme qui marchait dans la forêt, il a entendu un appel au pied d'un arbre, il a creusé, il a découvert la racine de ginseng en forme de petit bonhomme. Le fait que ce soit c'est une racine qui avait comme 4 ramifications qui faisaient 2 bras, 2 jambes. Donc, ce serait l'indication que c'est un adaptogène qui agit sur l'ensemble du corps. Bon, c'est ça. Pour certaines plantes, ça a été vrai. Il y en a plusieurs que ça marche. Après ça, de là à dire que c'est pas un hasard, je ne peux pas dire, mais le ginseng est effectivement un adaptogène qui agit sur l'ensemble du corps. Mais c'est sûr que pour comprendre le marché du ginseng, on peut pas juste s'appuyer sur des choses rationnelles et logiques. Il faut accepter le fait que il y a une forme, ben, c'est pas le bon mot, mais il y a une forme de religion autour du ginseng qui fait que il faut tenir compte de cette réalité-là. Donc, quand on vend les racines de ginseng, et oui, la cosmétique d'une racine est importante. Mm-hmm. Fait que non, c'est pas obligé d'être juste deux bras, deux jambes, mais c'est vraiment très, très particulier. Je veux dire, je suis allée en Chine à un colloque international sur le ginseng, et là-bas, bon, il y avait des kiosques. Les kiosques valaient 10-15 000 $ le kiosque, là, juste louer l'emplacement, c'était très, très cher. Et il y avait un kiosque double où est-ce que c'était juste des Chinois en veston-cravate et c'était des tapis de velours rouge partout et les racines de ginseng étaient là-dessus. Et il y avait des cadres. Mais c'est vraiment le cadre doré avec le fond en velours rouge et la racine de ginseng qui est mise là-dessus. Puis le ginseng est encadré. Puis ça vaut des milliers de dollars. Mais là, on a des racines qui sont très âgées. Et puis ça, c'est même pas destiné à être consommé. C'est destiné à aller dans le hall d'entrée d'une multinationale ou d'une compagnie très prospère pour montrer justement leur prospérité puis donner la chance ou je sais plus. En tout cas, il y a des croyances qui viennent autour de ça. Fait que, tu sais, c'est un autre monde quand on tombe dans le ginseng. Là. C'est pas juste. Oui, le ginseng a pour de vrai des propriétés médicinales. Oui, les recherches ont démontré que, tu sais, les bienfaits que ça pouvait avoir à plein niveau sur l'organisme, sur. Même, il y a des recherches qui étaient faites sur le cancer. Tu sais, il y a vraiment des effets qui ont été démontrés que du côté de l'Occident. Nous, c'est plus en ça qu'on va se rattacher pour donner la valeur à une plante. Mais de l'autre côté, ben il y a l'autre réalité aussi qui vient avec le ginseng.
Mm-hmm. Cette réalité-là qui est la réalité du marché, là, on va se le dire. Le ginseng, c'est une des plantes médicinales avec et même une des plantes végétatives, ou je veux dire, un des produits végétales qui a la plus grande valeur, là. Tu sais, les prix fluctuent, là, mais disons entre 200 et 500 $ la livre pour du ginseng.
Ah, ben, il y en a en champ, ça vaut moins cher que ça. En champ, c'est beaucoup moins cher.
Pour du ginseng forestier, je parle. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse au ginseng. C'est pour ce marché-là qui est un marché d'exportation, qui a ses caractéristiques propres et qui existe. Si je comprends bien, il y a déjà des filières d'exportation canadiennes, surtout en Ontario, avec des courtiers qui donnent des cotes, j'imagine, de qualité au ginseng et en font l'exportation. C'est pour ça qu'on s'y intéresse.
Ben, c'est sûr que l'avantage, il y a beaucoup de nouvelles cultures qu'on tente de développer et la difficulté, c'est souvent qu'il faut développer le marché en plus de développer la culture. Avec le ginseng, l'avantage qu'on a, c'est que ça fait des milliers d'années qu'ils consomment du ginseng, alors on n'a pas besoin de les convaincre. Oui, on peut développer le marché en Amérique, en Europe, mais à part ça, je veux dire, en Asie, là, le marché est déjà là. Il y a déjà un intérêt qui est très, très fort. Fait que ça, c'est un des gros avantages. La difficulté, c'est vraiment de le produire parce que c'est pas une plante qui est simple à produire. Puis après ça, ben, c'est ça. Oui, avec le, en fait, c'est qu'il se fait encore du ginseng en champ beaucoup en Ontario. Alors, il y a déjà des gens qui sont qui ont un pied en Ontario et en Chine pour faire agir comme broker ou pour peu importe là, pour vendre là-bas parce que c'est sûr que le marché asiatique est un peu complexe à percer. Fait que c'est ça, c'est de se connecter déjà beaucoup sur ça. C'est sûr que quand on leur parle de ginseng forestier de qualité, les yeux s'allument, là. Il y a de l'intérêt. Après ça, ben c'est de se connecter puis d'établir des relations et tout ça. Bon, je dis pas que ça se fait les yeux fermés, mais c'est quand même plus facile que d'autres cultures émergentes où est-ce qu'il y a absolument rien de ce côté-là. Mm-hmm.
Et donc, intéressons-nous à les autres méthodes de culture du ginseng. Mm-hmm. Le ginseng cultivé en forêt, puis le ginseng semi-naturel ou simulé sauvage, c'est
ouais,
quoi
en
la
anglais, ils appellent ça... en fait, c'est... ils appellent ça... c'est wood cultivated, puis wild simulated. Dans le fond, la culture en forêt, ça, c'est quelque chose que je ne recommande vraiment pas. En fait, ils font à peu près la même chose qu'en champ, mais dans une forêt. Fait que ils vont rentrer le bulldozer, ils vont rentrer la grosse machinerie dans le bois pour faire. Il y en a qui vont carrément faire des billons ou en tout cas qui vont faire des lits de semences. Puis c'est récolté parce qu'en champ ils vont récolter avec des récolteuses de pommes de terre modifiées. Ben, j'ai vu d'un producteur en Ontario qui fait la même chose dans le bois là. C'est un petit peu. En fait, c'est complètement fou.
Oui, dans une forêt naturelle, mais on pourrait imaginer un genre de système intercalaire avec une canopée, tu sais, de 75% et plus, dans lequel on n'aurait pas besoin d'ombrières de plastique.
En fait, mais c'est ça. La culture en forêt, l'idée, c'est d'économiser le coût de l'ombrière pour parce que c'est très dispendieux cultiver en champ. D'utiliser le couvert forestier pour ne pas avoir à investir dans des ombrières en toile. Puis ben là après ça l'intensité dans la culture en forêt comme ça l'intensité va varier d'un producteur à l'autre. Puis il y en a qui vont carrément être obligés de rentrer les pesticides là-dedans. Moi j'ai vu un producteur là, qui avait 20 arcs en forêt comme ça dans une forêt naturelle et la maladie a rentré là-dedans, il y avait de l'alternaria. Regarde, ça a été l'hécatombe là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages à cultiver en forêt, mais quand on fait de la culture intensive comme ça en forêt, puis surtout au Québec, avec le climat qu'on a et puis le type de forêt qu'on a, c'est sûr qu'on tue nos arbres à moyen terme là, en faisant ça. Là. C'est vraiment pas une bonne idée. Là. À part de pouvoir mécaniser, souvent on va cultiver dans des érablières, les érables ils ont quand même une valeur importante. On veut garder nos arbres debout, on veut pas tout massacrer. Fait que c'est pas quelque chose, moi, que j'encourage vraiment. Dans une plantation, peut-être. Par contre, c'est sûr que dans une plantation, on ne va pas avoir la cosmétique d'une racine qui pousse en forêt parce que tu n'auras pas l'humus, tu n'auras pas le même type de sol. Tu sais, dans le fond, une plantation, souvent, c'est dans un ancien champ ou des choses comme ça. Fait que tu risques... En fait, c'est que tu vas te retrouver avec des racines qui sont un peu mieux que des racines de champ, mais tu n'auras pas des racines qui ont l'air sauvage. Ça, c'est sûr.
Donc, comment on appelle la méthode de cultivation qui se fait sous la canopée d'une forêt naturelle?
En anglais, c'est wild simulated. En français, je ne sais pas, c'est la simulation de l'état sauvage. Regarde, j'ai pas de traduction. C'est pas de traduction parfaite pour ça.
Appelons ça la culture de ginseng et on y est, parce que c'est de ça qu'on veut parler, en fait. en tant que PFNL et en tant que potentiel. Comme pour la gestion forestière, disons, multi-ressources. C'est à ça qu'on s'intéresse. Tout à l'heure, tu disais, quand on fait un nouveau produit, il y a la mise en marché puis la culture. On a déjà un marché, on se concentre sur la culture. Toi, ça fait presque 20 ans, même plus, que tu travailles sur le sujet. On en est où dans la culture au Québec, sachant que dans l'histoire incroyable que tu nous as parlé tout à l'heure, la Nouvelle-France était le centre même du commerce de ginseng international. Puis c'est pas rien, c'est le premier produit que les Occidentaux ont pu échanger avec les Chinois. Ensuite, les Britanniques sont allés avec l'opium, mais c'était la Nouvelle-France qui était le centre même du ginseng. On en est où là aujourd'hui par rapport à cette réintroduction puis cette culture?
Mais là, je t'avoue, par exemple, que j'ai un peu sorti du ginseng, fait que je suis peut-être pas aussi à jour que d'autres là-dessus. En fait, dans le Jinsa, ce qui se produit, c'est que faut travailler fort. Quand j'ai travaillé pendant 20 ans dans le Jinsa, vraiment, tu sais, je me suis consacrée beaucoup. Et au cours de ces 20 années-là, j'ai beaucoup dégonflé des ballons. J'ai beaucoup ramené des gens sur Terre. Parce que, vu qu'il y a de l'argent à faire, les gens s'imaginent, bon, le cliché, c'est que je disais toujours, c'est les gens s'imaginent qu'ils vont passer en hélicoptère, envoyer des graines un peu partout dans leur forêt, revenir 10 ans après, puis être millionnaire. C'est caricatural, mais malheureusement, il y en avait beaucoup comme ça. Pour cultiver le ginseng en forêt, faut réunir deux choses qui sont dures à réunir. C'est de trouver une forêt qui a un bon potentiel pour la culture du ginseng et la personne qui est prête à mettre l'énergie et le temps pour le cultiver. Puis, ben, souvent, on a un ou l'autre, et des fois, on n'a aucun des deux. Mais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont essayé et qui se sont cognés le nez. Tu sais, je dis des fois aux gens, si vous mettez des plantes de tomates dans votre jardin puis vous y retournez pas du tout de l'été, ben, quand vous allez arriver à l'automne, vous serez pas si surpris que ça s'il n'y a pas de tomates dans votre jardin. Mais le ginseng, c'est un peu pareil. Je veux dire, non, on n'a pas besoin de travailler en fou, mais oui, faut faire un suivi, faut suivre au niveau de qu'est-ce qui se passe, le broutage, s'il y a des problèmes de maladie. C'est sûr qu'en forêt, vu qu'on fait une culture qui est très peu intensive, on a beaucoup moins de problèmes de maladies, mais il faut quand même surveiller nos affaires pour, si jamais ça commence, réagir rapidement, faire quelque chose et tout ça. Et bon, tu sais, l'habitat optimal au Québec du ginseng, c'est les rabières à caries. Dans les rabières à caries, il y en a plus beaucoup au Québec. Fait que souvent, les gens vont cultiver dans des forêts dont le sol est beaucoup plus acide que qui a certaines carences, ben à ce moment-là, faut venir corriger le sol. Faut venir ajouter de la chaux, faut venir corriger pas par des doses très grandes, mais il faut venir le faire. Puis il faut pas juste le faire une fois au début des 10 ans puis rien faire après. Il faut faire un suivi. Fait que c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des essais. Il y en a qui ont continué de suivre leur culture et qui ont des très bons résultats. Mais c'est ça, il y a eu beaucoup d'appelés puis pas tant d'élus. fait que c'est ça. Je pense que de ce que je crois comprendre, là, c'est qu'il y a une nouvelle vague de gens qui s'intéressent à au ginseng. Et bon, je sais que dans l'Outaouais, il y a une association. Fait que tu sais, il y a des gens qui sont rendus à récolter, mais c'est ça. Il faut vraiment réunir ces deux points-là ensemble.
Puis, OK, disons que je suis quelqu'un de vaillant. J'ai des semences de ginseng. J'ai une érablière, disons, une érablière à tilleul ou une érablière à bouleau jaune, là, bien que ça doit être différent l'un de l'autre. Disons que je suis dans les basses terres des Laurentides. Là. C'est comment que j'implante ça, du ginseng?
En fait, premièrement, c'est d'aller marcher la forêt, d'aller la marcher à différents moments. Un instant. D'aller la marcher à différents moments pour justement après plusieurs jours de pluie, après idéalement d'y aller au printemps à la fonte des neiges pour voir où sont les accumulations d'eau dans la forêt. Parce que toutes ces zones-là, il faut les éviter absolument. Le ginseng va pourrir, c'est pas très long. Fait que faut vraiment trouver un sol bien drainé. Ensuite de ça, c'est de prendre des échantillons de sol. Faut vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de notre forêt pour déterminer est-ce qu'on remplit les besoins de base du ginseng. Le pH optimal du ginseng, pour la culture est de 5,5. Mais il y a peu de forêts au Québec qui, naturellement, ont un pH de 5,5. Il va y avoir, après ça, si on décide de cultiver dans ces endroits-là, c'est possible. Alors, en fait, le drainage, ça pardonne pas. Il faut absolument que ce soit drainé. Après ça, pour le reste, si on est capable de venir corriger s'il y a des carences de ce côté-là. Après ça, ça va être pendant l'été de préparer le site, de ramasser les branches, ces choses-là, pour être capable de travailler à l'automne. Moi, j'aime bien travailler en bande de 2 mètres de large, puis de laisser une allée d'au moins 50 cm entre chaque bande. Fait que de cette façon-là, on est capable de circuler. Il ne faut pas mettre du ginseng partout et pas être capable de se promener dans notre plantation, parce qu'il faut pouvoir aller surveiller, voir au niveau des maladies, puis bon, comment les choses se comportent. Idéalement pendant l'été, on va marquer des parcelles, on va identifier où est-ce que ça se passe, où est-ce qu'on veut planter, semer ça. Et après ça, le reste, ça va se passer à l'automne. Ça va se passer à l'automne après la chute des feuilles, des arbres. Là, à ce moment-là, on racle les feuilles sur les parcelles. S'il y a des amendements à mettre, on les ajoute à ce moment-là et on va semer le ginseng. En général, on va le semer à la volée. On a fait des essais pour voir s'il y avait avantage à le semer en profondeur. Puis ça semble pas donner des résultats qui valent la peine là, de ce côté-là. C'est ça. On va après ça. Oui.
Donc, pas de travail du sol nécessairement, de retournement. C'est simplement racler les feuilles, mettre à la volée et remettre le mulch,
les feuilles par-dessus ensuite. Si on veut travailler le sol, on le travaille sur à peu près un pouce de profond, gros maximum. Faut vraiment pas aller profond. En fait, ce produit, on avait fait des tests juste pour le démontrer au départ, là, avec un rotoculteur. Bon, premièrement, gérer un rotoculteur en forêt, c'est une job assez intense. Et deuxièmement, en fait, ça fait des racines qui vont plonger très rapidement dans le sol parce que le sol est ameubli sur la profondeur. On a tout brisé les racines des arbres et des autres plantes en surface en faisant ça. Les racines de ginseng vont plonger. Puis là, quand ils vont arriver à la profondeur de sol où on a arrêté de travailler, souvent, ils vont ça peut donner des racines en forme de L, dans le sens que la racine va rechercher toujours à aller où c'est plus facile. Fait que quand elle va frapper le sol qui est plus compact, elle va chercher à aller à l'horizontale dans qu'est-ce qui est encore meuble. Fait que c'est pas nécessairement souhaitable. On accélère un peu la croissance les premières années parce qu'en ayant tout brisé ce qu'il y a dans le sol, on a fractionné toute la matière organique non décomposée, fait qu'on accélère cette décomposition-là, fait qu'il y a une richesse augmentée apparente là, pour les premières années, mais ça non plus, c'est pas nécessairement souhaitable. Fait que non, c'est pas un objectif de travailler le sol. Je pense que dans un but de préserver la forêt et d'avoir des racines qui ont l'air de des racines sauvages, je pense que si on travaille le sol, moi ce qu'on utilisait, là, on avait développé une déchaumeuse à pelouse modifiée qui permettait vraiment de travailler juste à peu près un pouce de profond. Ça peut être fait. Ça fait un lit de semences qui accueille un peu mieux les semences. La semence va un peu plus s'intégrer dans le sol, mais je n'irai pas à plus profond que ça.
Puis pour le traitement de la semence, le ginseng fait sa semence à peu près à la fin de l'été. Là. Est-ce que...
Septembre.
En septembre, OK. Est-ce qu'on prend ces semences-là et on les ensemence à l'automne? Est-ce qu'on les garde en stratification pendant l'hiver et on les remet l'année suivante?
C'est vraiment préférable. On peut, tu sais, dans la nature, c'est ça qui se passe, mais il y a vraiment très peu. Je pense que les chiffres disaient que c'est une graine sur 250 en nature qui va donner un plant. Donc, on augmente de beaucoup nos chances en stratifiant les semences dans des conditions contrôlées. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va récolter les semences sur les plants, on va les dépulper. Ça, c'est très important d'enlever toute la chair autour des fruits. Ça réduit de beaucoup les chances d'avoir des maladies dans les boîtes de stratification. Parce que dès qu'il y a c'est dans les boîtes de stratification, il y a beaucoup de semences ensemble. Fait que s'il y a une graine qui est malade, ben, elle va la donner à toutes les autres, la maladie. Fait que ça, c'est pas intéressant. Donc, on va dépulper les graines. Après ça, on va les mettre dans des boîtes où on le mélange avec du sable. Une boîte qui est drainée dans le haut et dans le bas. Et bon, ça peut se faire aussi en chambre froide, là. Mais sinon, on les enterre dans le sol. Dans un endroit très, très bien drainé, c'est vraiment important. Et là, comme ça, la semence va passer à peu près un an, là. On va la mettre, là, c'est fin août, début septembre, et on va la ressortir l'année d'après quand on va être prête à semer. On sépare le sable des semences, et c'est ces graines-là. Mais quand on achète des graines, en général, on va acheter des graines stratifiées, donc qui ont déjà subi cette année-là. Et le dernier 6 mois de la stratification va se faire sur le sol pendant l'hiver. Là. Puis au printemps suivant, le ginseng va sortir à peu près en même temps que la sortie des feuilles des érables. C'est pas mal timé.
Tu parlais de broutage puis d'herbivorie. Ensuite, on met une clôture à chevreuil, on protège son ginseng. Est-ce que les chevreuils vont particulièrement vers le ginseng comme un bonbon ou...
Non. Non, le ginseng n'est pas une des plantes de prédilection du chevreuil. Par contre, c'est qu'il y a des endroits où ce que la densité de chevreuil est tellement intense qu'ils sont en train de tout bouffer le sous-bois. Fait que là, à ce moment-là, ben, s'ils n'ont rien à manger, ils vont manger ça. Là, je veux dire, c'est pas l'horreur pour eux autres, c'est pas un répulsif, mais c'est pas non plus, ils vont pas faire un détour pour aller manger ça. S'ils ont un champ de luzerne à côté ou d'autres choses, ils vont aller manger d'autres choses. Mais il y a des endroits où il y a trop de la densité de chevreuil est trop importante par rapport à la forêt. La forêt est en train bon, ça c'est un autre sujet, mais il y a des endroits, vu que on a détruit beaucoup de prédateurs, ben il n'y a pas un équilibre qui se fait, ce qui fait qu'il y a destruction du sous-bois.
Puis tout à l'heure, je pense que tu l'as dit, mais c'est vraiment la stratification puis partir de la graine. Hein? On peut pas faire du bouturage de racines ou de la division végétale.
Non. Non, pour deux raisons. La racine, dès qu'elle est brisée, elle pourrit très, très facilement. Donc, en faisant ça, on augmente les chances de pourriture vraiment beaucoup. Le taux de survie est pas très bon outre ça. Et en plus de ça, la forme de la racine perd tout de suite son intérêt. Fait qu'il y a vraiment pas de... Puis, tu sais, on ferait très peu de racines avec une seule racine. Pour que ça vaille la peine de faire de la multiplication par bouturage, c'est qu'il faut faire plusieurs plants à partir d'un plant. Dans le cas du ginseng, c'est pas possible.
On avait eu une discussion la dernière fois qu'on s'était parlé, là, qu'on avait initié, puis que j'aimerais continuer, c'est sur l'approvisionnement des semences. Okay? On sait qu'il n'y a pas eu de sélection de cultivars de ginseng, qu'on s'attend à ce que la diversité génétique soit encore présente et maximale dans les semences que l'on a, qui proviennent pour la plupart des cultures en champ, n'est-ce pas? Les semences que l'on achète pour mettre en forêt, c'est des semences qui ont cultivé en champ. Mais moi, je doute de ma connaissance de, par exemple, la sélection génétique qui se fait dans le monde maraîcher, dans ce qu'on appelle les land race, qui sont par le brassage génétique et les reproductions de génération en génération dans un même champ, il va avoir des caractéristiques qui vont rester plutôt que d'autres. Puis c'est pas pour être Lamarckien là, ou une autre théorie de l'évolution qui serait adaptive. Mais oui, on se rend compte que ça existe, ces notions-là de d'épigénétique. Okay? Ça fait que moi, mon attente, c'est que ça ne fait pas de sens d'avoir des parents, genre des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents qui ont poussé dans les champs et qui se sont sélectionnés comme ça et de les mettre en forêt. Moi, j'ai l'impression que une des raisons pourquoi on voit autant d'échecs de stratification dans les populations forestières, c'est parce que nos semences proviennent des champs et qu'il y a une certaine sélection et une domestication de ces plantes-là. Qu'est-ce que tu en penses?
Bye. C'est sûr que à l'origine, les semences qui sont cultivées en champ ont été prises dans les populations sauvages. C'est sûr qu'aux États-Unis, les populations sont en bien meilleur état qu'ici, naturel, ce qui fait qu'il y a plus de possibilités de cueillette et tout ça. Par contre, il y a un test qui a été fait, il me semble que c'est à Guelph, où est-ce qu'ils ont vraiment pris un gros nombre là, de semences un nombre de semences qui venaient de vraiment beaucoup de populations. Ils ont demandé à des cueilleurs peut-être c'est aux États-Unis, je sais plus, ça a été fait tout. Ils ont demandé à des cueilleurs de ginseng aux États-Unis de récolter des semences, de les envoyer. Ils en ont pris dans des champs de culture, ils en ont pris, tu sais, à vraiment beaucoup il y avait un gros échantillonnage et ils ont regardé la diversité génétique de toutes ces populations-là. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la diversité génétique dans les champs est beaucoup plus grande dans les populations naturelles. C'est sûr que les populations naturelles sont en vase clos depuis des centaines d'années. Comme je disais tantôt, c'est pas une semence qui voyage beaucoup. Fait que quand une population réussit à s'établir, elle se reproduit entre elles depuis le temps qu'elle est, ce qui veut dire très longtemps.
Je vais te dire là-dessus, sur la diversité génétique, c'est touché parce que la domestication amène une diversité génétique. On le voit, par exemple, avec le monde des chiens. Okay? Une fois qu'on a appris à domestiquer les chiens, on a fait là un monde de phénotypes et de génotypes associés.
Oh oui, mais là, attends un petit peu. Incroyable.
Puis les chiens sauvages là, qui ressemblent à des loups, ils se ressemblent tous dans le monde entier. Tu sais, ça fait cette diversité.
Oui, mais là, attends, il y a une chose, par exemple.
D'un manque de risque.
La comparaison est boiteuse dans le sens que les humains ont choisi qu'est-ce qui bridait avec les chiens. Ça, c'est d'autres choses. Là. Puis, il y a du inbreeding. Puis, dans les chiens, c'est vraiment d'autres choses. Dans le ginseng, c'est qu'il n'y a jamais personne qui a fait de sélection ou à peu près. Il y a des producteurs qui avaient essayé à un moment donné d'identifier leur plus gros plant, puis ci, puis ça. Mais c'est tellement long parce que le cycle de reproduction du ginseng est très lent. Il n'y a rien qui a été fait de ce côté-là. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, si tu veux comparer, c'est de prendre, puis encore là, c'est boiteux, mais c'est de prendre un groupe d'humains dans un centre d'achat, puis de dire, il y a une grande diversité, puis encore là, c'est boiteux. C'est pas bon. Mais c'est ça, c'est. Fait que, tu sais, le plant qui va être petit et peut-être pas performant en champ, c'est peut-être lui qui va performer en forêt, effectivement. Ça sera pas les supermen, ceux qui sont vraiment les premiers de classe là, en champ, ça sera pas eux autres qui vont être les meilleurs probablement en forêt, mais vu que c'est très, très variable, puis quand on marche dans un champ, on le voit, là, les plants sont très, très différents les uns des autres, sont pas à la même grosseur, sont pas, tu sais, on n'est pas, il n'y a pas eu de croisement, il n'y a pas eu de rien.
Je pense que le point que je veux amener, c'est un peu le sentiment que la loi de la protection qui, par exemple, moi j'ai une érablière avec une population de ginseng comme stable qui peut-être là depuis genre la dernière glaciation ou depuis genre tu sais depuis longtemps et que c'est illégal pour moi de reprendre les semences puis d'encourager cette population là et que légalement là si je suivais vraiment les règles faudrait que j'aille acheter des semences d'Ontario pour reproduire cette population-là.
Non, tu ne peux pas reproduire cette population-là. Tu ne touches pas à cette population.
Non, pas pour la reproduire, mais pour encourager le ginseng, disons, dans mon lieu, je trouve que là, il y a des limitations qui font que je devrais être capable de reproduire cet tas-là qui, oui, a clairement...
Okay. Dis-toi une chose, c'est que si toi, tu as le droit de faire ça, ça veut dire que ton bougon de voisin a le droit d'aller piger dedans, puis a le droit de récolter les semences, puis les vendre à n'importe qui fait qu'on va en perdre le trois quarts, si c'est pas plus, puis que l'autre idiot à l'autre bout a le droit de faire ça. Tu comprends-tu qu'à un moment donné, collectivement, faut choisir le moindre mal nécessaire?
Ouais, je comprends.
Le but, là, la loi n'a pas été faite pour la personne qui est bien intentionnée. Malheureusement, là, les lois, là, sont faites pour les cabochons qui font des niaiseries dans la vie.
je suis d'accord avec toi.
À la limite, quelqu'un qui veut faire ça, là, ben, il y a moyen de contacter Andréno au Biodôme de Montréal puis voir s'il y a moyen de faire un programme de gestion de sa population naturelle. Mais à ce moment-là, il va avoir des biologistes dans sa cour et ainsi de suite. Mais si c'est ça l'intention et qu'elle est noble et qu'elle n'est pas dans un but commercial, ben là, il y a moyen de faire de quoi, mais à un autre niveau, mais qui n'est pas du tout la production, qui n'est pas... Puis là, je parle pour Andréno, là, je ne suis pas en train de l'impliquer du tout. Mais tu sais, quelqu'un qui veut vraiment faire ça, il y a moyen après ça de voir qu'est-ce qui peut être fait dans un sens de protection. Mais là, ça, c'est d'autres choses.
Mm-hmm. Isabelle, merci. Je vais mettre des liens pour que les gens puissent aller plus en profondeur par rapport à ça. Mais c'est où que tu dirigerais les gens qui seraient intéressés à faire de la production de ginseng? Est-ce que toi, tu continues à faire du conseil et...
Non, j'en fais plus. Non, j'ai fait des choix, là, et je n'en fais plus. C'est sûr que si les gens veulent faire des projets de recherche avec Diaptère, il y a moyen de faire des choses, là, mais il faut vraiment... Ça, c'est à plus grosse échelle, là, mais sinon... Je suis désolée, là, mais je suis sortie du milieu, fait que j'étais probablement plus à même que moi de référer qui peut aider de ce côté-là. Je veux pas nommer personne parce que je sais plus qui est où.
Parfait. Parfait, il n'y a pas de problème. Je vais mettre des liens attachés avec cet enregistrement. Puis je te remercie du travail que tu as fait, un travail de pionnier, clairement. Puis, je te souhaite bonne chance dans la suite de tes projets.
Bien, merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.